Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, on est mardi, chouette alors, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles est aujourd'hui un sujet qui est fascinant. Franchement, on va pas se mentir, il est fascinant, il fascine tout le monde. Alors il y en a pour qui c'est pas du tout pour moi, il y en a qui sont tentés. L'accouchement à domicile. Et oui, c'est vrai que ça peut tenter, ça peut repousser, ça peut faire peur. En tout cas, ça fascine, ça ne laisse personne indifférent. On va entendre le témoignage de Victoire. Victoire, elle a accouché deux fois à domicile, dont une fois toute seule. Vous vous rendez compte? Donc Victoire avec Agathe Le Caron, puis après on sera avec une sage-femme à domicile. Parce que bien sûr, pour accoucher à domicile, il faut être accompagné d'une sage-femme, une sage-femme spécialisée. C'est le cas de Chloé Rosa, qui sera avec nous. On écoute.
Alors pour certaines femmes, accoucher, c'est un événement tellement intime qu'elles préfèrent accoucher chez elles, dans leur cocon, entourées de leur conjoint et d'une sage-femme, bien entendu. Bonjour Victoire.
Bonjour.
Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes la maman d'Antoine, de Côme et d'Éloi. Et vous avez choisi d'accoucher à la maison pour vos deux derniers garçons. Alors évidemment, c'est surprenant, mais finalement, pour nos grands-mères, c'était la routine, quoi. Donc aujourd'hui, à notre époque, on se dit, oh là là, mais c'est incroyable, alors que c'était plutôt naturel. Autrefois. Alors, en octobre 2017, Victoire, vous tombez enceinte de votre premier enfant qui s'appelle donc Antoine. Vous accouchez de façon plutôt classique avec péridurale à la maternité, etc. C'est vrai qu'au début, vous vouliez essayer sans péridurale, mais bon, voilà, on sait que généralement, on tient moyennement quand on est primipare. Pour votre deuxième Côme qui naît en mars 2020, vous décidez cette fois d'accoucher à la maison. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ?
Alors déjà pour Antoine, donc j'avais accouché à l'hôpital, je ne m'étais pas posé de questions, j'avais fait comme tout le monde. Et en fait, j'avais trouvé le travail très long, on m'avait fait la péridurale, je n'ai pas senti les contractions, je n'ai vraiment pas senti mon bébé arriver. On m'a tendu mon fils et j'ai eu beaucoup de mal à créer un lien tout de suite parce qu'on m'a tendu un bébé, je ne savais pas d'où il venait.
Vous n'avez pas eu le temps d'imprimer ce qui s'était passé, voilà. Puisque vous n'aviez pas senti.
Voilà. Et donc, en fait, après, j'ai rencontré deux très bonnes amies qui ont accouché chez elles. Donc, je me suis dit, c'est possible, c'est faisable. Donc, je me suis renseignée, j'ai regardé des reportages, j'ai lu beaucoup de choses et je me suis dit que c'était possible.
Alors oui, c'est ça, c'est très important ce que vous dites, parce que vous dites, je me suis renseignée, je crois que c'est quand même très important de le faire. Ensuite, vous avez rencontré Marie et Sophie, qui sont deux sages-femmes de votre région, qui pratiquent l'accouchement à domicile. Ça aussi, on en reparlera. C'est un peu une denrée rare. Comment ça s'est passé, la rencontre, le suivi de grossesse? En fait, qu'est-ce qui est différent du suivi que vous avez eu pour votre premier enfant?
Alors déjà, pour le premier rendez-vous, donc j'en avais parlé à mon mari qui n'était pas du tout,
pas du tout
dans l'idée. Donc, on a eu un rendez-vous du jour au lendemain chez ma sage-femme. Donc, on est allé. On ne devait pas dire si on le faisait ou pas à la fin. Mon mari a posé beaucoup de questions. On a pu savoir vraiment ce qui se passait, quels étaient les risques, sous quelles conditions on pouvait le faire. Et bon, il m'a dit qu'il était prêt à le faire pour moi et finalement il a cheminé lui aussi. Et c'est vrai que c'est un suivi qui est beaucoup plus humain. Quand on se rencontre, on fait de la sophrologie, on parle des hormones qui sont là pendant l'accouchement, tout ça, par rapport à mon premier enfant où le suivi de grossesse était plus, vraiment sur le corps et regarder mes parties intimes et mon poids. Et voilà, et c'est vraiment pas pareil.
Alors vous êtes beaucoup, beaucoup préparée pendant la grossesse. Vous avez fait du chant prénatal, des mouvements sur le ballon. Vous l'avez dit, vous êtes beaucoup renseignée, vous avez vu des reportages, vous avez beaucoup lu. Comment est-ce que vous imaginez cet accouchement à la maison ?
Alors, c'était délicat parce que déjà, mon mari est en militaire. On ne savait pas s'il serait là. Donc, c'était vraiment soit il sera là, soit il ne serait pas là. Donc, je m'étais dit, bon, on va se préparer comme s'il n'était pas là. Et ma sage-femme m'a dit que si jamais, au dernier moment, bah, il n'est pas là et que je ne le sens pas, il y a toujours la possibilité d'aller au plateau technique. Avec ma sage-femme, on va à l'hôpital dans une salle spéciale, une salle naturelle, avec plein de choses comme à la maison, en fait.
Oui, donc voilà, vous n'étiez pas inquiète du tout. Votre mari, il a fini par se faire à l'idée, en fait. Il s'est dit, bon, allez, OK. En revanche, est-ce que votre entourage a compris votre démarche?
Alors, c'est pas évident. C'est vrai que moi, j'étais toute contente de mon idée, mais il y a quand même certaines personnes de mon entourage qui m'ont dit « c'est complètement fou, c'est dangereux, ça se fait plus, maintenant, il faut aller à l'hôpital ». Mais bon, mon mari me soutenait, quelques membres de ma famille, et du coup, je me suis dit qu'une fois que j'étais convaincue de mon projet, j'en ai plus trop parlé. Et puis voilà, on allait voir
Alors, le jour du terme est arrivé, puis là, rien. Voilà, on est en plein premier confinement, il n'y a pas de contraction, il n'y a rien du tout. On vous annonce un déclenchement quelques jours après. Ça, c'est évidemment quand on veut accoucher à la maison. On est vraiment dans le concept inverse. Et puis, trois jours plus tard, toujours pas de contraction. Et là, vous vous dites quoi ?
Voilà, c'était le vendredi, j'avais rendez-vous à la maternité pour me déclencher. Ils me déclenchaient plus tôt parce c'était en plein confinement, donc ils avaient peur de la vague en fait, de Covid après. Et donc, j'en ai beaucoup discuté avec ma sage-femme, elle me disait si tu te sens bien, si ton bébé bouge bien, si tu te sens, tu n'as aucune obligation d'y aller. Mais voilà, il fallait quand même qu'on surveille tout. J'allais bien sûr au rendez-vous tous les deux jours à la maternité. On surveillait qu'il y ait assez de liquide, que le bébé aille bien. Donc tout allait bien, donc je n'y suis pas allée.
Après, alors vous avez beaucoup marché, hein, vous avez essayé de sautiller pour faire venir le bébé. Après une énième balade, enfin vous ressentez des contractions, c'est quelques jours après. Et puis votre conjoint est là, ça c'est une très très bonne nouvelle. Mm-hmm. Et vous accouchez.
Oui, donc c'était 5 jours après le terme. Donc on a fait effectivement une promenade, on est rentré. Et donc j'ai joué à Just Dance pour danser. Je faisais pas mal de choses comme ça pour bouger. Et donc à 23h30, je commence à avoir des contractions bien douloureuses. Je me mets mon matelas dans le salon avec de la musique, du piano, des bougies. Mon mari est là sur le canapé, il travaillait sur son ordinateur, il savait pas trop quoi faire à ce moment-là. Et donc j'avais très très froid. Je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je n'arrive pas à me réchauffer quand j'ai des contractions comme ça. Donc, je suis allée me mettre dans la salle de bain. Je me suis fait un bon bain chaud, plein de mousse. Et en fait, au moment de rentrer dans le bain, je me rends compte que l'eau est glacée. L'eau est glacée et en fait, mon mari avait sans faire exprès, il avait rangé un placard dans lequel il y avait chauffe-eau. Et il a éteint le chauffe-eau. Donc moi qui rêvais depuis des mois d'accoucher dans l'eau, dans la piscine que j'avais louée, c'était...
Vous aviez vu une piscine et possible. Tout,
ouais.
Oui, donc là, c'était raté, évidemment.
Voilà.
Alors, vers minuit et demi, votre conjoint a appelé une des deux sages-femmes, c'est Marie, c'est ça ?
Voilà.
Alors, où est-ce que vous en êtes à son arrivée ?
Il n'arrêtait pas de me demander est-ce que j'appelle ? Moi, je dis non, c'est peut-être du faux travail. Moi, j'avais très peur de les déranger pour rien. Donc elle arrive dans la salle de bain, j'étais en train de gérer des contractions. Je dis, mais pourquoi t'es là? C'est du faux travail. Et en fait, donc elle m'a aidée à faire des sons, je prenais des positions qui me faisaient du bien. Et en fait, pas longtemps après, elle est allée chercher mon mari qui est venu se mettre à côté de moi. Là, j'étais dans la phase de désespérance, là, au sommet, où je me disais, mais pourquoi j'ai décidé de faire ça? J'aurais pu avoir la péridurale à la maternité, je veux partir et tout. Et en fait, mon mari m'a posé sa main dans ma nuque, et là, tout de suite, j'ai eu un élan plein de force, et en deux poussées, Côme est arrivé.
Et vous avez vraiment vu une différence? Parce que vous disiez tout à l'heure, avec Antoine, le lien, ça a été compliqué, vu que je n'ai pas senti. Oui. Est-ce que ça a été différent, là?
Ah oui, c'est vrai que c'est différent. Et puis, bon, j'ai eu la chance d'avoir une poussée rapide, il est arrivé très vite. Et de l'avoir, enfin voilà, Marie l'a mise dans une serviette dans les bras de mon mari. Et en fait, c'était magnifique.
C'est magique. 4 mois après, bim, de nouveau enceinte. Vous imaginez évidemment tout de suite un second accouchement à domicile. Ça s'est super bien passé. Vous recontactez votre sage-femme Marie. Mais là, vous savez en revanche que votre époux, il ne sera pas là. Hein. Je rappelle donc, vous le disiez, il est militaire. Et j'imagine que le jour J, il y a plus d'appréhension vu que vous êtes toute seule. Il n'y a pas la petite main sur la nuque.
Exactement. J'ai pensé tout de suite à la main sur la nuque aussi. Mais là, c'était une autre préparation parce que je savais qu'il ne serait pas là. Donc, de le savoir, ce n'était pas comme la fois d'avant. Je ne savais pas, peut-être que, alors j'espérais, mais là j'étais sûre qu'il ne serait pas là, donc je m'étais préparée, il ne sera pas là, je le sais, et donc j'avais fait ça différemment.
Alors, vous avez eu des contractions dans la nuit du 8 au 9 avril 2021. Comment s'est passé le deuxième accouchement ?
Alors, c'était encore pendant le confinement.
Il faut dire qu'on en a eu pas mal.
Voilà. Et donc là, c'était à J+6, donc j'ai quand même attendu encore 6 jours après le terme. Il était vers 3h du matin, j'ai commencé à avoir des contractions, mais j'étais toujours pas sûre que ce soit du vrai travail. Donc je vais prendre un bain, cette fois j'avais un bain chaud. Et en fait le travail s'est fait très très vite, vers 4h30 j'ai envoyé un message en prévenant que ça allait arriver. Et en fait j'ai eu le temps de sortir de ma salle de bain, j'ai préparé un matelas avec des bougies, des photos dans ma chambre. Je me suis mise sur le matelas dans ma chambre et là pareil, je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça? Mon mari n'est pas là, je suis toute seule. Et en fait, en deux poussées, donc Éloi est arrivée aussi très rapidement. Je l'ai sortie par les bras. Et du coup, ma sage-femme est arrivée une demi-heure après parce que c'était le temps qu'elle arrive.
Ah oui, c'est ça. Oui. Donc, mais vous n'aviez pas prévu d'avoir, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille
Alors, c'était prévu, mais ma maman, malheureusement, a eu le Covid à ce moment-là, donc elle devait rester chez elle. Et donc, au dernier moment, j'ai un couple d'amis, de très bons amis, qui sont venus à la maison. Et c'était surtout au cas où il fallait que j'aille à la maternité, parce qu'il y a toujours cette possibilité s'il y a un souci, Et j'avais une jeune fille qui était à l'étage avec les enfants, qui était là, voilà, qui surveillait les enfants s'il y en a un qui se levait. Voilà,
alors, vous êtes toujours pas accouchée dans l'eau, donc et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un quatrième enfant. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la prochaine fois, avec de l'eau chaude, voilà, la piscine qui marche bien, et vous viendrez nous la raconter. Alors, on a une petite surprise pour vous, Victoire, parce que c'est vrai que quand on vit des moments comme ça, il y a une figure d'attachement à laquelle on ne s'attend pas, bah, c'est sa sage-femme. Regardez.
Non. Coucou ma belle Victoire. Cette petite surprise en souvenir de ces deux naissances partagées ensemble à la maison. J'étais vraiment très très heureuse de vous accompagner tout au long de ces grossesses et de ces accouchements. Et de la force et de la puissance et de la confiance que tu as su contacter au cours de ces naissances et de ces grossesses. Tant en tant que mère qu'en tant que femme. Tu peux être très fière de toi. Je vous fais des gros gros bisous et j'espère que tout va bien pour vous.
Bonjour Chloé Rosa.
Bonjour.
Alors vous êtes une des quelques 80 sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile en France. 80, c'est pas énorme, hein. On va en reparler. Est-ce que toutes les femmes enceintes peuvent prétendre à un accouchement à domicile ou est-ce qu'il faut remplir certains critères bien précis ?
Alors en fait, évidemment, toute femme peut aller rencontrer une sage-femme pour lui faire la demande de l'accouchement à domicile. Mais évidemment, l'acceptation du projet d'accouchement à domicile ne va pas être possible chez toutes les femmes, chez tous les couples. Nous, quand on reçoit les couples, on a un premier entretien qui est très long. Et du coup, on va faire le point au niveau médical, savoir est-ce qu'il y a des antécédents particuliers. Est-ce que, par exemple, il y a eu plusieurs chirurgies au niveau de l'utérus qui contre-indiqueraient un accouchement à domicile. Est-ce qu'il y a une hypertension qui est déjà sous traitement? Là, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a déjà un diabète déjà préexistant avant la grossesse sous insuline? Ça, c'est des contre-indications à l'accouchement à domicile. C'est des femmes qu'on ne va pas pouvoir accompagner. Et ensuite, même quand on part sur le projet d'accouchement à la maison, finalement, tout au long de la grossesse, on a besoin d'avoir tous les feux verts pour aller jusqu'au bout du projet, qu'au niveau des échographies, tout se passe bien, qu'au niveau des prises de sang, tout soit dans les clous. Mmh. Et du coup, s'il y a le moindre truc, on ne va pas pouvoir maintenir le projet d'accouchement à la maison. Si on a un retard de croissance, s'il y a une malformation à l'échographie ou s'il y a d'autres choses, ouais.
On a reçu pour vous une question en vidéo de Delphine qui a fait ce choix, elle, d'accoucher à domicile. Regardez.
Bonjour à la maison de maternelle. J'ai accouché exactement 2 mois d'un petit Armand à la maison et ça s'est très bien passé. J'avais une question pour vous. Comment cela se passe si la sage-femme qui est déjà présente à notre accouchement est appelée pour un autre accouchement à domicile? Est-ce qu'elle a le droit de partir si la femme est déjà plus avancée dans le travail? Merci.
On sent qu'elle s'est posé la question après. Mais en fait, si jamais on l'avait appelée, comment ça se serait passé? C'est vrai, ça?
Ça arrive, pas très souvent, mais ça peut arriver. Nous, on a la chance en région parisienne d'être plusieurs. Du coup, si jamais on est déjà sur une naissance, on appelle une collègue qui, du coup, se détache pour aller sur l'accouchement qui se met en route, le deuxième accouchement. Mmh. On reste jusqu'à la fin du premier accouchement. Et une fois que le premier accouchement est terminé, si la dame n'a pas encore accouché, du coup, on rejoint l'autre sage-femme pour, si on a le temps, pouvoir être là pour la naissance.
Vous avez des sortes de binômes ?
En fait, nous, on travaille... nous, on est 2 sages-femmes en région parisienne, on a cette chance-là. Du coup, il y a la sage-femme référente qui suit le couple toute la grossesse, qui fait les consultations, qui est présente à l'accouchement et qui fait les visites. Et on a une liste d'astreinte de 24 heures avec des sages-femmes d'appui, donc la deuxième sage-femme. Et donc, du coup, on est 2 sur les naissances.
D'accord.
Valérie vous demande, bien sûr, la grande question, en cas de complication, s'il y a besoin d'une césarienne, si la mère fait une hémorragie de la délivrance, par exemple, comment ça se passe ?
Alors, par rapport à la césarienne, déjà, quand on est à la maison, il y a rarement besoin d'une césarienne imminente. En fait, c'est ce qui va faire qu'on va avoir besoin d'une césarienne. Il va y avoir plein de signes et de situations annonciatrices de la césarienne. On n'arrive pas comme ça... sur le qui-vive, tout de suite, on a besoin d'une césarienne. Par exemple, si jamais on a un liquide teinté à la maison, donc c'est le bébé qui fait des selles dans son liquide, on reste pas à la maison, du coup, on transfère. Si jamais, à l'auscultation cardiaque du bébé, on entend qu'il y a des ralentissements, on transfère. S'il y a une stagnation qui est très longue, ça veut dire qu'on sent peut-être que le bébé est retenu, peut-être par un cordon ou autre chose. Au bout d'un moment, on transfère. Donc, du coup, on n'est pas dans un...
En gros, vous allez anticiper la césarienne beaucoup
dans
plus la prévention. Que dans une maternité.
Et en plus, vous ne pouvez pas vous servir d'instrument. Donc, parce que ça, alors du coup, vous transférez s'il y a besoin de cuillère ou s'il y a besoin de...
En gros, ça va être... Les signes qu'on va voir, c'est qu'il y a une stagnation et qu'il n'y a pas d'engagement qui se fait. D'accord. Donc du coup, nous, évidemment, on ausculte le cœur du bébé parce qu'on peut avoir une stagnation et pas d'engagement du bébé, mais le bébé va bien. Donc du coup, on transfère et du coup, après, ça se débloque ou peut-être qu'il y a besoin d'une péridurale ou... Enfin, voilà, mais...
Ouais. On a parlé de 80 sages-femmes en France. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu qui pratiquent l'accouchement à domicile? Ça, c'est une question de Fabienne.
Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile. Je pense notamment parce qu'il y a la problématique des assurances. Actuellement, les sages-femmes en France qui pratiquent l'accouchement à domicile ne sont pas assurées. Parce que quand on se tourne auprès des assureurs et qu'on leur demande une assurance, ils le refusent.
C'est fou, ça.
Et donc, quand on va voir les assureurs des assureurs... Enfin, en gros, c'est les assureurs des assureurs qu'ils ne veulent pas assurer. Et quand on saisit le bureau central de tarification, du coup, qui impose à une assurance de nous assurer, en fait, les assurances proposées sont entre 25 000 et 35 000 euros l'année.
Ah, ça calme.
Voilà. Donc, du coup, il n'y a aucune sage-femme en France qui est assurée pour ces raisons-là.
La première question, faut-il quand même constituer un dossier auprès d'une maternité si on a prévu d'accoucher à la maison?
Oui, tout à fait. En gros, c'est hyper important que la femme soit inscrite en maternité. Donc, il y a une ouverture de dossier avec une sage-femme ou un gynéco et après une consultation avec l'anesthésiste pour qu'il y ait... une consulte d'anesthésiste qui soit ouverte dans la maternité. Donc ça, c'est pourquoi? Parce que si jamais il y a un transfert, du coup, la maternité connaît déjà le dossier de la dame. Et si jamais, où elle dépasse son terme et qu'il y a besoin d'un déclenchement, elle est déjà connue dans cette maternité. Donc c'est important.
Fanny vous dit, je suis à 29 semaines SA, à 29 SA et je me renseigne sur l'accouchement à domicile depuis peu. À partir de quel moment de la grossesse il est trop tard pour décider d'un accouchement à domicile?
Alors, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on est peu nombreuses. Et donc, du coup, au niveau de nos disponibilités, les femmes nous contactent très tôt. Donc, en fait, on a très vite plus de place, en fait, pour pouvoir les accompagner. Parce que chaque sage-femme a son quota, sa limite du nombre d'accouchements par mois qu'elle peut faire.
D'ailleurs, vous en prenez combien?
Moi, j'en prends 3-4 par mois. Mais j'ai des collègues qui peuvent en prendre plus, d'autres moins. Ça dépend de notre vie perso aussi. Ouais. Donc voilà, comme on est peu nombreuses, on a énormément de demandes. Et du coup, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances d'avoir une sage-femme. Donc c'est hyper important de s'y prendre le plus tôt possible. Mais après, si jamais elle trouve une sage-femme qui a de la place et qui est OK pour l'accompagner, enfin voilà, après, c'est à voir avec la sage-femme, quoi.
Elsa vous demande le coût d'un accouchement à domicile.
Alors, du coup, pour l'accouchement à la maison, comme nous, on est deux sages-femmes, on demande un dépassement d'honoraires de 1 500 euros. En fait, le tarif sécu, c'est 376 euros, un accouchement. Et du coup, on demande un dépassement d'honoraires parce que ça demande un engagement personnel, une astreinte permanente.
Bien sûr.
On est dispo jour et demie, donc du coup, c'est ce prix-là. Après, évidemment, on va s'adapter si jamais il y a des gens qui ont des difficultés financières. Et après, les dépassements ne sont pas les mêmes d'une sage-femme ou d'une région à une autre.
Et les mutuelles remboursent?
Oui, il y a des mutuelles qui remboursent, pas forcément toutes, mais du coup, au premier entretien, en fait, on remet un devis au couple. D'accord. Avec le dépassement d'honoraires pour qu'ils puissent interroger leur mutuelle et pareil, savoir où est-ce qu'ils vont, si c'est OK pour eux.
C'est 1 500 euros par sage-femme?
Non, pour l'accompagnement.
Pour le duo?
Oui, le binôme, oui. Okay. C'est ça.
Maïrilis vous demande à quelle femme et couple ça s'adresse. Est-ce que toutes les femmes sont capables d'accoucher chez elles sans environnement médical?
On l'a dit un petit peu tout à l'heure. En gros, si jamais il y a des contre-indications, on ne va pas pouvoir soutenir le projet d'accouchement à la maison. Mais après, sur le fait... moi, j'ai beaucoup de foi sur le fait que les femmes sont capables d'accoucher naturellement ou de bien accoucher.
Est-ce que psychologiquement, ça demande un accompagnement particulier, le fait d'être chez soi, de pas avoir d'environnement médical à proximité immédiate?
Oui, en fait, ce qui est hyper important, ça va être finalement les consultations qui sont beaucoup plus longues qu'à l'hôpital, les préparations à la naissance. Et c'est toute cette préparation-là qui fait que le couple se prépare à l'accouchement, à l'intensité et à cette phase de désespérance. qui est assez intense et qui peut être un peu impressionnante, qui fait que facilement, quand on est en maternité, qu'on est moins bien accompagné, c'est moins facile de tenir ce moment-là. Et souvent, les femmes demandent la péridurale.
Oui.
Donc, c'est sur ce point-là où elles sont bien préparées.
Vous parliez de l'investissement pour vous, qu'on imagine important. Je me souviens, lorsque Kate Middleton a accouché, vous l'aviez vu venir, ma question pourrie.
Oui, bah oui.
Son gynéco avait donné une interview, il avait dit « ça fait 2 mois que je bois plus d'alcool, que je me couche à 20h, que mon portable est tout le temps allumé, etc. » Pour vous, ça doit être pareil, non?
Ouais.
Il ne peut pas y avoir d'écart, même les départs en vacances, etc., c'est compliqué.
Oui, en fait, on programme tout 9 mois à l'avance, un peu. Enfin, en gros, les week-ends, si on peut... les vacances, et oui, on ne boit pas d'alcool, ou alors un verre. Mais oui, il faut qu'à partir du moment où on est une dame à terme, qu'on soit disponible directement, quoi. Qu'on puisse tout lâcher sur l'instant pour partir sur l'accouchement.
Sur les deux, dans le binôme.
En fait, celle qui est sage-femme référente, elle, oui, il faut qu'elle soit disponible. Et après, la deuxième, comme c'est une liste d'astreintes de 24 heures, c'est les sages-femmes qui mettent leur disponibilité. Enfin, on a un plus grand groupe, et du coup, elles mettent leur disponibilité. Donc, quand elles sont d'astreinte, elles savent qu'il faut qu'elles soient dispo sur ces 24 heures. Mais nous, c'est sur un mois, ouais.
Marie, ma question était donc plutôt pertinente.
Très judicieuse.
Bravo, Benjamin.
Mais ne pas pouvoir boire, Marie, vous n'auriez pas pu être sage-femme.
Non, moi, je ne pourrais clairement pas. Ça, c'est sûr. Nous, si on était arrivés respirant la raclette, le vieux jambon fumé et le bon vieux vin blanc...
Ça peut peut-être déclencher, je ne sais pas.
Oui, bien sûr. Oh mon Dieu, je vais accoucher avant qu'elle me touche.
Oh mon Dieu, ça pue. Pardon, pardon.
Vanessa, une question un petit peu technique. Elle vous dit, peut-on accoucher à la maison avec une incompatibilité rhésus?
Une incompatibilité rhésus, ça veut dire que probablement elle est de groupe rhésus positif et O négatif et son conjoint positif. Donc par exemple, elle est O négatif et lui est O positif. En gros, c'est possible. C'est juste que si elle est de groupe rhésus négatif, il y a une prise de sang qui est à prévoir au cordon et à la maman. Et du coup, il faut que quelqu'un soit disponible pour déposer le bilan à Saint-Antoine pour vérifier qu'il n'y ait pas de passage de sang maternel au niveau des cellules fœtales de la maman, et après faire une injection à 3e jour de vie. Mais oui, c'est possible.
Et c'est quoi,
c'est juste à prévoir. En gros, c'est le même suivi qu'en maternité. Ça veut dire que quand il y a une dame qui est groupe négatif et que le bébé est groupe positif, on vérifie au cordon le groupe du bébé. Et du coup, on va faire un rofilac pour empêcher que la maman crée des anticorps contre le groupe sanguin de son bébé en vue d'une deuxième grossesse.
Ce qui peut engendrer des fausses couches dans la foulée.
C'est ça. Si jamais il y a une deuxième grossesse et que du coup, on ne fait pas cette injection, la mère peut créer des anticorps contre les cellules différentes de son groupe sanguin.
D'accord.
Donc du coup, mais ça, c'est possible aussi. C'est juste qu'il faut prévoir quelqu'un dans les heures qui suivent la naissance pour déposer le bilan. Et quand on a les résultats, on fait l'injection au 3e jour de vie, au plus tard.
Ça s'anticipe, quoi.
Voilà.
Quand tout se passe bien, vous partez au bout de combien de temps, vous, une fois que le bébé
En général, c'est plus 3 heures. Enfin, en gros, le minimum, c'est 2 heures. Mais en général, on prend notre temps. Donc du coup, c'est plus 3, voire 4 heures. Parce que, on prend vraiment le temps. Si le bébé est au sein, on ne va pas le retirer pour faire l'examen du bébé. Donc du coup, le temps que le bébé y tète, il fasse ses premières tétées...
Vous ne restez pas toute une journée
Non. Mais en gros, c'est de l'ordre de 3 heures, 2-3 heures.
Et alors, on n'a pas parlé du rôle du coparent? Oui. J'imagine qu'il a un rôle, c'est votre assistant un peu, non?
En gros, déjà, on ne part pas sur un projet d'accouchement à domicile si le coparent n'est pas...
Et Marie, elle se moque de mes questions.
Non, parce que je vous imagine tellement... Panique!
Moi, je ne serais plus médecin que le médecin, vous rigolez ou quoi?
Pardon. Mais en gros, il faut que le coparent soit OK avec le projet. Et en fait, selon les femmes, il y a des femmes qui vont être beaucoup en sollicitation, donc qui vraiment vont se suspendre à leur conjoint, tracter. Enfin, vraiment, il y a une grande sollicitation, donc c'est séance d'ostéopathie pour tout le monde après l'accouchement. Ouais. Et d'autres qui vont plus être dans leur bulle, avoir besoin qu'on les laisse un petit peu toutes seules et d'être en présence, mais plus à distance. Donc il y en a qui vont être vraiment dans la nécessité qu'on les masse tout le temps, ou d'être maintenues, et d'autres plus distantes. Mais en tout cas, juste par la présence, c'est hyper important qu'il y ait un soutien.
Margot, qui est enceinte de 28 semaines, vous demande, le jour J, il n'y a pas de péridurale possible. Quelles sont les alternatives si jamais on ne peut pas gérer la douleur et que c'est insurmontable?
Alors,
la douleur, c'est toujours une question, quoi.
Oui, c'est la question clé. Déjà, si jamais on est sur une naissance et que du coup la dame nous regarde dans les yeux en nous disant « là, c'est pas possible, c'est trop pour moi, j'ai dépassé mon seuil, c'est pas possible », on transfère. Et la dame, dans sa maternité, du coup...
Le temps de transférer, hein
Ça dépend voilà. où on habite.
Autant accoucher. Non.
Tout à fait. C'est ce que j'allais dire. Du coup, donc, mais en tout cas, c'est
oui,
possible si jamais.
Professeur Le Caron. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Si jamais, en gros, c'est trop rude, en gros, on peut transférer. Mais déjà, il y a toute la préparation qui fait que, en gros, elles sont préparées à cette intensité, etc. Et en général, quand on est dans la phase intense où on n'en peut plus et qu'on se dit oh, « j'en peux plus, je veux la péridurale, etc. Mmh. », c'est le moment où le bébé arrive. Mmh. Donc, en gros, même la dame qui est chez elle, elle se dit « alors attends, en fait, il faut que je mette mon manteau, mes chaussures, qu'on aille dans la voiture, elle a la maternité. » Et là, du coup, elle se dit « bon, c'est pas grave, je vais accoucher. » Et donc, en général, elle accouche pas longtemps après parce que c'est vraiment dans cette phase-là, la phase de désespérance qui est un peu rude.
C'est plus mal, hein, quand même. Et après, la
si
délivrance.
Y a la délivrance qui est là, ouais. Et là, tout le monde pleure.
Et là, tout le monde pleure et de joie.
Djamila vous demande avec quel matériel la sage-femme arrive le jour de l'accouchement.
Alors, oui, on a pas mal de matériel. Du coup, on ne vient pas les mains vides. Donc, on a des gants stériles, de quoi faire une révision utérine si jamais on doit aller chercher le placenta, de quoi perfuser, de quoi sonder, faire un sondage urinaire, de quoi écouter le cœur du bébé, une balance, de quoi mesurer le bébé, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un Doppler, ouais, ça j'ai déjà dit, un saturomètre pour mesurer le taux d'oxygène du bébé si jamais il y a un souci, de quoi réanimer un bébé évidemment, s'il y a une détresse respiratoire, donc de quoi ventiler, de quoi aspirer, une couverture chauffante, un thermomètre.
Une petite suze.
De la BD. Des compresses.
Pour se remettre.
Voilà. Ah, des clans de cordon. Des ciseaux.
Cordon. Ouais. Ouais, vous arrivez après. Avec votre petite valisette quand même.
Ouais, on est assez équipé. On est content quand il y a des ascenseurs.
Ouais. Inès vous dit pour certains, l'accouchement à domicile est synonyme de retour en arrière, d'archaïsme et même de prise de risque pour la maman et le bébé. Est-ce qu'il souffre d'une mauvaise image ?
Ça dépend. Il y en a qui voient ça comme un retour en arrière. Après, il y a un peu... Enfin, l'accouchement à domicile revient un peu... parce qu'avec cette envie de revenir à des choses plus naturelles, oui. plus de gérer soi-même son accouchement. Mais en soi, moi, je trouve pas que c'est un retour en arrière parce qu'avant les années 50, du coup, tout le monde accouchait à la maison. C'est qu'à partir des années 50, vraiment, où tous les accouchements ont été... délocalisés dans les maternités. Et avant, en fait, on n'avait pas le choix. Donc, en fait, on subissait le fait d'accoucher à la maison. Alors que là, les couples ou les femmes qui choisissent ça, c'est vraiment un choix, c'est une envie profonde et intime. Et à la différence d'avant, c'est que là, aujourd'hui, on a les échographies, il y a les prises de sang, donc on n'est pas à l'aveugle. Avant, les accouchements à domicile, on ne savait pas s'il y avait des jumeaux, si c'était ouais, ouais, bien positionné, s'il y avait un placenta qui était au niveau du col. Là, aujourd'hui, bah, on a quand même une visibilité qui nous permet déjà d'enlever pas mal de pathologies et d'être vraiment sur des grossesses physiologiques.
Merci beaucoup à Chloé Rosa, sage-femme à domicile, d'être venue nous voir. Et merci infiniment à Victoire d'avoir accepté de raconter son histoire. Voilà, on se retrouve demain. J'espère que cet épisode vous a plu. Demain, on parlera de l'allaitement et plutôt des difficultés à l'allaitement. Comment ça se passe quand on n'y arrive pas ? Voilà, quelles peuvent être les raisons d'un allaitement qui ne prend pas ? Et puis comment psychologiquement on peut le gérer quand on s'est mis, quand on a pu se mettre un petit peu la pression pour que ça marche. Donc soyez au rendez-vous demain, 1er décembre, pour cette émission en direct sur France 2 à 9h30, et puis quand vous voulez en podcast, vous commencez à connaître. Allez, ciao tout le monde.